France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre qui participe cette semaine à l'opération Passer le bac, mention France Culture. C'est en effet le cas de cette opération dans les émissions d'histoire, de philosophie et de sciences. Donc dans cette tranche science, après les mathématiques lundi et les sciences de la vie hier, nous consacrons l'émission d'aujourd'hui à la géographie. Nous évoquerons en particulier son épreuve la plus singulière, ce qu'on appelle le croquis. Bac Géo, réussir son croquis et comprendre la mondialisation, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine, une émission dont le Monde Campus et le magazine Carto sont partenaires.
Qu'il y a eu dans l'histoire des crises climatiques, elles ont toujours engendré des conflits, des guerres ou même des révolutions.
Donc ça sert à se préparer.
Ça sert à se préparer et à bien comprendre ce qu'est l'enchaînement. La géographie est aussi très précieuse.
C'est le président François Hollande, président de la République, qui l'a dit hier au micro d'Emmanuel Laurentin. Quel meilleur auspice pouvions-nous avoir pour parler du bac de géographie aujourd'hui? Donc en terminale, le monde, c'est le monde comme espace et comme territoire qui est au programme et au baccalauréat en géographie. Les élèves ont donc étudié les lignes de force, le fonctionnement, les cœurs et les périphéries de la mondialisation. Ces caractérisations d'ensemble ont été déclinées tout au long de l'année dans trois espaces spécifiques, les Amériques, l'Afrique et l'Asie du Sud et de l'Est. L'Europe et la France, n'est-ce pas, ont été étudiées en première. L'instrument et la méthode privilégiés pour comprendre ces réalités sont les cartes. Comment les lire? Comment les interpréter? Et les croquis, donc, c'est-à-dire les croquis, les cartes que réalisent les élèves eux-mêmes. Alors, durant l'émission, mes invités expliqueront comment ils réalisent eux-mêmes trois croquis qui peuvent tomber le jour du bac. Il y aura un sujet pays, dynamique territoriale du Brésil. Il y aura un sujet d'air régional, l'Afrique, contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation. Il y aura enfin un sujet d'échelle planétaire, l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Ensuite, mes trois invités nous proposeront leurs conseils de préparation aux deux autres types d'exercices susceptibles de tomber au bac de géographie, à savoir la composition et le commentaire de documents. Mes trois invités sont donc trois géographes, professeurs d'histoire géographie de terminale. J'ai nommé Nolwenn Azilis Rigolet, au lycée Champlain de Chenevièvre-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, de l'Académie de Créteil, Véronique Ziegler, à l'école alsacienne à Paris, et Jean-Benoît Bourron, au lycée Lamartinière-Montplaisir à Lyon. Bonjour à vous trois.
Bonsoir. Bonjour.
Je précise, Jean-Benoît Bourron, que vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, et je salue bien chaleureusement nos collègues qui vous accueillent. Alors, on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire ce croquis. Pourquoi donc est-il si important qu'il y ait un croquis à faire quand on est élève de terminale et qu'on passe le bac? Et je crois que ça vaut en particulier pour les élèves d'ES, mais aussi pour les deux autres sections, ES et L. Véronique Ziegler.
Oui,
Véronique Ziegler, excusez-moi, je précise que vous êtes auteure de manuels de terminale chez Attier et que vous êtes aussi formatrice des futurs professeurs d'histoire et géographie en IUFM, je crois.
Non, pour l'agrégation, en fait, c'est les collègues qui ont le CAPES et qui veulent passer l'agrégation interne.
Voilà, merci.
Donc, comme vous venez de le rappeler, les croquis présentent des cartes que les élèves doivent réaliser. Au début de l'année, on a fait un chapitre d'études et de compréhension de croquis qu'ils n'ont pas réalisé. Et puis, dès le premier chapitre, on leur demande une production graphique. Attention, le croquis, c'est quelque chose de très cadré parce qu'ils ont un fond de carte et il y a une liste très précise qui est fournie pour le bac, par le bulletin officiel. Donc, pour les élèves de S, il y a 5 croquis au programme. Et donc là, nous allons en présenter 3.
Quand vous dites 5 croquis au programme, Véronique Ziegler, ça veut dire que c'est 5 fonds, il faut comprendre 5 fonds de cartes au programme ou 5 croquis qu'il faut apprendre et être capable de restituer?
Alors voilà, 5 fonds de cartes qui sont proposés sur le site de l'Éducation nationale et chaque élève le jour du bac, à partir du fond de carte, doit bâtir la légende lui-même et doit remplir le croquis lui-même.
Alors ces 5 fonds de cartes sont donc les fonds de cartes de quelle zone, quelle aire,
soit finalement des planisphères pour tous les premiers chapitres sur le fonctionnement de la mondialisation, les territoires dans la mondialisation, soit à l'échelle d'un État, comme on vient de le dire, les États-Unis, le Brésil, un continent, l'Afrique. Et puis aussi, on va avoir par exemple les ESL, d'autres choses un petit peu plus spécifiques, un croquis par exemple à l'échelle d'une agglomération, celle de Mumbai, anciennement Bombay.
Et donc là aussi, il y a des fonds de cartes proposés par le ministère de l'Éducation nationale.
Exactement. Donc ce qui est spécial et qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les élèves de France qui passent le baccalauréat ont le même fonds de carte, mais au cours de l'année, ils ont réalisé un croquis avec leur enseignant qui n'est pas forcément complètement le même que celui réalisé dans les autres classes, puisque l'objectif de ce croquis, ce qu'il faut bien faire comprendre aux auditeurs, c'est que c'est la réponse à la question qui est posée. Donc l'organisation de la légende, le choix des éléments qu'on va mettre sur ce croquis, eh bien on le fait avec sa classe. On va privilégier des croquis plus ou moins compliqués, par exemple selon le niveau de la classe, ou on va faire des choix qui nous semblent les plus pertinents par rapport à la question qui est posée.
Nolwenn Azilis Rigolet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ces éléments généraux, on va dire, sur la mise en place du croquis? Donc je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie en terminale au lycée Champlain de Chennevières, merci, sur Marne, donc voilà, dans le Val-de-Marne, et que vous êtes auteur de manuels scolaires en ligne sur le livre scolaire.
Alors les versions papier existent aussi, et ont été là pour le collège, envoyées dans les établissements, voilà, et après il y a une version numérique assez poussée.
Mais avant en fait, c'est d'abord des versions numériques, je ne me trompe pas.
Il y a les deux en fait, il y a les deux. On a les deux formats, mais c'est vrai que c'est spécialisé sur le numérique.
Voilà. C'est très intéressant, moi j'ai été voir. Et...
Les versions papier sont très bien, je les conseille aux collègues de collège pour la rentrée.
Je n'en doute pas, mais moi je conseille aux élèves d'utiliser les versions numériques, surtout qu'elles sont en accès libre,
Tout à fait. Avec des possibilités de révision, etc.
Très intéressant. Alors, justement, par rapport au croquis, est-ce que vous pensez que de proposer, des supports numériques, est-ce que ça permet de voir le croquis autrement? Et surtout, peut-être de faire en sorte que ça stresse moins les élèves, parce que quand on a préparé tous les quatre avec Jean-Benoît Bourron, que nous n'oublions pas, qui est en duplex de Lyon, une des choses qui m'a frappé, c'est que vous disiez que le croquis est à la fois très central en géographie et que pourtant ça stresse énormément les élèves.
Tout à fait. Alors, généralement, les élèves ne sont pas très familiers de ce type d'expression. En fait, il s'agit de leur faire comprendre qu'en fait, c'est expliquer des phénomènes géographiques en les traduisant par le graphique, en fait, et pas simplement par des mots. Et c'est vrai que les élèves ont l'habitude de s'exprimer plutôt par des phrases, par des mots. Donc, c'est quelque chose dont ils ne sont pas familiers. L'idée, c'est tout au long de la scolarité, les réconcilier justement avec cette manière de montrer le monde qui est propre donc à notre discipline. Et vous parliez des supports numériques, c'est vrai que ça peut être une manière aussi de rétablir du ludique par rapport à ça et de les familiariser justement avec cette façon d'appréhender, de montrer le monde et de l'expliquer également.
Est-ce que ça veut dire, Nolwenn Azilis Rigolet, que les élèves de terminale qui passent le bac de géographie ou le bac d'histoire-géographie, mais donc l'épreuve de géographie, doivent être bons en dessin?
Absolument pas, puisqu'on évalue. Alors évidemment, il faut que les croquis soient lisibles, soignés. A priori, en terminale, ils savent à peu près correctement colorier. Mais l'idée, c'est d'être pertinent, de faire de bons choix graphiques pour représenter donc tel ou tel type de réalité spatiale, ce à quoi on s'entraîne toute l'année terminale et bien en amont, en partenariat avec tous nos collègues du secondaire. Mais il ne s'agit pas d'être bon en dessin. Là, on n'est pas du tout sur ce type d'appréhension. On est vraiment sur la pertinence du choix du figuré, de la cohérence de la légende pour répondre à une approche problématisée du choix du croquis, en fait.
Alors, Jean-Benoît Bourron, vous êtes donc, je le disais, en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Vous êtes géographe, vous aussi, et professeur de terminale, vous aussi, en histoire-géographie, au lycée Lamartinière-Montplaisir à Lyon. Et vous avez...
Oui, c'est ça.
C'est ça, merci. Et bon, vous avez notamment publié, je crois, un ouvrage sur les territoires ruraux chez Ellipse, mais vous êtes aussi, là je crois que ça peut vraiment intéresser tous les élèves de terminale de France et du monde, hein, parce que n'oublions pas qu'un certain nombre d'élèves passent le bac un peu partout dans le monde. Vous êtes aussi l'auteur ou le co-auteur d'un blog très très intéressant qui s'appelle La Géothèque. Alors vous aussi, donc, vous êtes sur les supports numériques. Et quand votre collègue Nolwenn Azilis Rigolet disait qu'il n'y a pas besoin d'être bon en dessin, mais qu'il faut savoir colorier, être net et propre, ça veut dire qu'il faut, s'être habitué, quand on est élève de terminale, à travailler avec quel matériel et quel est le matériel qu'il faut absolument avoir avec soi le jour J.
Alors, penser à prendre des crayons de couleur pour faire un croquis, c'est toujours une bonne idée, donc s'en prémunir avant l'épreuve d'histoire-géographie. On peut conseiller aux élèves aussi de se procurer ce qu'on appelle un normographe, qui est une petite règle avec des petits trous de taille différente, cercles ou rectangulaires, qui permettent de faire des figurés réguliers. Donc on conseillera aux candidats d'éviter les figurés qui représentent des petits arbres ou des petits avions et de se limiter à des figurés simples, géométriques, avec ce type de règle, par exemple, qu'on appelle un normographe et qu'on peut se procurer en papeterie.
Donc des pastilles de différentes tailles, si par exemple on veut représenter différentes tailles de villes, ou bien des carrés, ou bien des losanges, mais surtout pas des figurés qui symbolisent quelque chose.
Oui, on va éviter d'être trop figuratif dans les figurés. Et puis, les élèves se sont entraînés au cours de l'année normalement, donc ils n'arrivent pas le jour de l'épreuve en partant de rien. Ils réutilisent les compétences qu'ils ont apprises. Et puis, c'est pas que des compétences graphiques, puisque faire un croquis, c'est faire un plan, organiser sa légende. Et donc, c'est les compétences qui sont déjà utilisées pour l'analyse de documents et pour la composition. Donc, tout n'est pas du dessin et du graphisme dans un croquis.
Mais finissons quand même sur le matériel. Si vous le voulez bien, je voudrais être sûr que vous ayez dit tout ce que vous avez à dire tous les trois. Donc, si je retiens bien, des crayons de couleur, mais peut-être pas trop, un normographe, parce que si on a 10 crayons de couleur, il faut peut-être pas avoir 3 bleus, il vaut peut-être mieux avoir 4 couleurs qui se distinguent bien, je me trompe ou pas, Véronique Ziegler?
Non, il faut quand même
avoir un peu plus.
Il faut quand même une dizaine de couleurs.
Une dizaine de couleurs.
Bon, et moi, je conseillerais aussi quand même des feutres fins pour écrire les noms, parce que je m'aperçois dans la pratique avec mes élèves qu'ils ont beaucoup de mal à écrire très clairement avec les crayons de couleur. Donc,
c'est assez logique.
Oui, non, ça se fait très facilement, mais les élèves ont plus de mal, je trouve. Donc, les noms d'océans, de villes, de régions, etc., des feutres fins, c'est très bien.
Donc, il ne faut pas écrire au crayon à papier, par exemple?
Non, jamais. Non. Le crayon à papier, on passe sa main dessus, sa bave, ça ne se voit pas. Donc, c'est absolument à prohiber, le crayon à papier.
Et est-ce que c'est déconseillé d'utiliser le stylo, qu'il soit plume, bille ou roller, avec lequel on a l'habitude d'écrire?
Pour moi, je le déconseille parce que dans la manière d'écrire les noms, on va en reparler tout à l'heure, l'élève qui prend son stylo bic ou plume qu'il a l'habitude d'utiliser va écrire tous les noms avec ce même stylo, indifféremment, peut-être même tous en minuscule, et on ne pourra pas repérer ce qu'il veut mettre en valeur comme ville ou océan, nom de région, etc.
Alors, est-ce que vous iriez, Jean-Benoît Bourron, à conseiller aux élèves de faire l'acquisition d'un stylo très fin à encre de Chine de type Rotring, par exemple?
Alors, peut-être pas les stylos qui sont effectivement utilisés par les étudiants en géographie pour faire des coupes géomorphologiques, parce que c'est peut-être pas l'attente. Mais je pense qu'il faut quand même qu'ils aient du matériel auquel ils soient habitués et qu'ils soient capables d'utiliser sans le faire baver, sans se rendre compte après trois quarts d'heure de travail qu'il y a une énorme trace noire au milieu de leur feuille. Donc voilà, le matériel qu'ils sont habitués à utiliser sera le mieux, en évitant bien sûr tout ce qui peut faire des pâtés ou baver. Voilà, on va pas citer de marque, mais il y a des stylos fins.
Allez-y, je vais quitte à donner des conseils, autant tout de suite donner les conseils les plus pratique possible. Hein. C'est pas grave.
Je pense au pilote V5 qui est fin et qui bave très rarement, et qui est celui que j'utilise personnellement pour faire les cartes manuscrites et que je ne saurais que conseiller aux candidats.
Véronique Ziegler et Nolwenn Azilis Rigolet, vous êtes d'accord avec ce conseil pratique sans vouloir faire de publicité?
Oui, tout à fait.
Bon, le pilote V5.
Et puis une gomme. Et puis également un taille-crayon, ça peut être utile quand même.
Bon, alors, est-ce qu'on a fait le tour? Parce qu'on est bien d'accord, faut déjà, avant de commencer à rentrer dans la réalisation des cartes et dans leur conception, il faut avoir son matériel. Est-ce que là, vous avez tout dit? On n'a rien oublié?
Non.
Donc, les crayons de couleur, quelques feutres fins, le normographe, le pilote V5 pour écrire sans baver, une gomme, un taille-crayon, un buvard?
Non, c'est peut-être pas utile. Je pense qu'on peut colorier proprement son buvard quand même.
Alors maintenant, si vous le permettez, je voudrais quand même vous demander, mais pourquoi le croquis? Enfin, je veux dire, quel est, si j'ose dire, l'intérêt de cette épreuve si spécifique? Et puis, surtout si vous la comparez aux deux autres, qui sont la composition et le commentaire de documents. Et puis peut-être aussi expliquer, bon, pas aux élèves qui le savent déjà tous, ceux qui sont en terminale, mais à ceux de nos auditeurs qui ne passent pas le bac directement, mais qui vont peut-être accompagner ceux de leurs cousins, nièces, enfants, petits-enfants, comment ça marche, puisque c'est une épreuve d'histoire-géographie, donc quelle est la part de la géo, quelle est la part de l'histoire, et en termes de barème, comment ça se passe, si on peut dire ça, et en particulier pour les élèves de TS. Véronique Ziegler.
Donc d'abord la chose la plus simple en termes de barème, donc le jour du bac finalement on a une épreuve courte, donc quand il y a un croquis c'est que la géographie tombe en épreuve courte, ça peut être un croquis comme une étude de document, d'ailleurs c'est pas obligatoirement le croquis, et une épreuve longue, dans ce cas-là, l'épreuve longue c'est la composition en histoire. L'épreuve courte est évaluée à peu près sur 8 points, l'épreuve longue sur 12 points, mais on n'a pas de barème spécifique, c'est-à-dire que on peut, avec un excellent croquis, mettre un peu plus que 8. Hein, on n'a pas de barème complètement précis. Donc ça.
Et en termes de temps, alors, parce que vous dites que dans le cadre de l'épreuve d'histoire-géographie, qui dure combien de temps en tout?
Alors, pour les S, 3 heures, pour les ES et les L, 4 heures.
Alors, et donc ce que vous appelez l'épreuve longue et l'épreuve courte, ça fait combien de temps à peu près?
On conseille aux élèves, alors pour les S, environ 1h30 à 1h15 pour la partie longue, donc la composition, et puis 1h à 1h15 pour l'analyse et la réalisation, donc soit du croquis, soit de l'analyse de doc. Après, ça peut dépendre des élèves, voilà. Mais il faut effectivement gérer son temps, hein, ça, la gestion du temps, c'est fondamental, en particulier pour les S qui n'ont que 3 heures, ce dont les évaluateurs ont pleinement conscience d'ailleurs, hein, et donc on en tient compte également pour l'évaluation, puisqu'on n'attendra pas exactement le même degré de précision dans les informations. Voilà. On peut commencer d'ailleurs par la seconde partie d'épreuve, hein, ce qui peut être très
ce que vous appelez l'épreuve courte.
Ce qu'on appelle l'épreuve courte. Elle se présente sur le sujet bac en fait en deuxième, mais il n'y a pas de souci. On peut très bien la faire d'abord. Si c'est un croquis, ça peut être stratégique d'y passer une heure.
Moi, c'est ce que je conseille aux élèves en général.
Parce que les élèves se laissent souvent
embarquer par la composition. Le temps de faire leur plan, réfléchir à leurs problématiques, etc. Voilà, composition d'histoire, ils ont envie de beaucoup écrire. Et là, ils se retrouvent très couramment avec 3/4 d'heure pour l'épreuve courte. Et du coup, ils n'ont pas assez de temps. Donc pour les S, je leur recommande vraiment de commencer par l'épreuve courte.
Et pour les ES et pour les L, ça se discute?
Oui. Ça se discute, ça peut dépendre des élèves, ça dépend des sujets. Mais voilà, en tout cas, les élèves doivent savoir qu'ils peuvent très bien commencer par l'épreuve courte, en fait, voilà, inverser le temps. Par rapport à ce que disait Véronique Ziegler, la copie, effectivement, évalue un global, même si on a ce barème quand même en tête. Hein, et il faut absolument tenter. C'est-à-dire que les élèves, parfois, peuvent être démobilisés sur une seconde partie d'épreuve ou sur une compo. Il faut absolument tenter. Dans la mesure où c'est évalué en global, ça peut faire mauvais effet de ne même pas avoir essayé, sachant qu'en plus, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais les thèmes sont très transversaux, surtout en géographie. Les élèves ont des connaissances, il faut tenter, il ne faut rien lâcher. Même s'il fait beau, on aura le temps d'aller boire un verre en terrasse plus tard.
Et inversement, Jean-Benoît Bourron, est-ce que vous diriez, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire que ceux qui se donneraient à fond sur le croquis en particulier, ou sur le commentaire de documents, voire sur la composition de géographie, si c'est la géographie qui tombe en composition, ils risquent d'avoir un petit avantage comparatif?
Oui, c'est vrai que la géographie est toujours un petit peu mal aimée dans l'enseignement secondaire, et le candidat au bac qui va faire l'effort d'appuyer son croquis, de bien travailler son analyse de documents sera valorisé par rapport à ceux qui vont passer trop de temps sur la composition et puis bâcler l'épreuve de géographie si c'est cette configuration-là qui tombe au bac. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment des points à prendre, notamment sur le croquis, puisqu'on a 5 en gros sujets possibles pour les terminales S et qu'ils les ont travaillés pendant l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme des points à prendre et non pas des points à perdre.
Et alors imaginons, c'est vraiment par pure hypothèse, imaginons que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y ait quelques élèves qui n'aient pas beaucoup travaillé le croquis pendant l'année, non pas parce que leurs professeurs ne les ont pas fait travailler, bien sûr, mais parce qu'ils ont, ils ont un peu choisi leur matière, on va dire. Le conseil que vous venez de donner là, Jean-Benoît Bourron, à savoir que c'est assez rentable, c'est encore possible là, il reste combien de temps concrètement?
Là, il va nous rester 2-3 semaines avant le bac, donc c'est encore possible, mais il est temps de s'y mettre. Là, pour ceux qui ne sont pas encore mis, je pense que le
mais quand vous dites qu'il est temps d'y mettre, est venu, là. Ça veut dire que non seulement le moment est venu, mais que ça peut être rentable, quoi. Si, tout à fait. S'il y en a qui ont un peu négligé le croquis pendant l'année, en 3 semaines, ils peuvent. C'est très rentable de s'y mettre pendant 3 semaines.
Oui, et puis ça fait varier les révisions. Quand on a revu son chapitre d'histoire ou de géographie pour préparer la composition, s'entraîner au croquis, c'est changer d'exercice, c'est réviser autrement, parce qu'en révisant le croquis, il est évident qu'on révise aussi les thèmes qu'on va aborder dans les compositions de géographie ou dans les analyses de documents. Donc tout ça est complémentaire en réalité.
D'accord. Je comprends. Alors, ce que je vous propose, avant qu'on rentre directement maintenant dans les 3 sujets de croquis que nous avons choisis ensemble, c'est peut-être d'écouter un micro-trottoir qui avait été réalisé le 27 juin 2013 par France Inter auprès de candidats qui sortaient de l'épreuve d'histoire géo et qui étaient précisément interrogés sur la géo.
Sophie, lycéenne à Cherbourg, se souvient très bien du moment où elle a découvert les sujets.
Je me suis demandé si c'était une blague et si on allait nous donner les vrais sujets après. Le premier sujet, j'ai directement zappé. Le deuxième, je me suis demandé, mais c'est quel chapitre? Parce que je ne sais même pas quoi mettre.
On nous demande de faire 2 heures sur des petits chapitres, d'écrire 2 heures dessus. Surtout en étude de cas, c'est un truc sur lequel on passe super vite. En 1 heure, c'est fait. C'est dur, quoi. Je suis ressorti, j'ai soufflé, quoi. On m'a piégé.
Bon, alors on peut les rassurer, ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont pas du tout représentatifs, là, ces deux-là? Véronique Ziegler.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils parlent effectivement de l'étude de cas. Donc, pour expliquer aux auditeurs, on a souvent des entrées de chapitres sur un thème général, par exemple sur l'Asie, voilà, une étude de cas sur Mumbai. Donc, effectivement, les élèves, on a beau leur dire au cours de l'année, attention, l'étude de cas fait partie d'un sujet possible en composition. Pour eux, ça reste un exemple. Donc là, les témoignages qu'on a eus, c'est les élèves qui n'ont pas bien compris la portée de l'étude de cas.
Jean-Madame Bron.
Il s'agissait aussi d'élèves qui passaient le baccalauréat en première S à cette
première
époque.
Voilà. Donc,
ça n'a pas duré longtemps.
Pour eux.
Mais néanmoins, est-ce que ça vous donne quand même envie est-ce que ça entre en résonance avec des comportements, des attitudes ou des représentations, après tout on est en géographie, des représentations qu'il vous arrive d'inventorier, de répertorier au sein de vos classes?
Sur les études de cas, effectivement, peut-être, l'année dernière, en S, le Sahara était tombé, ça avait pu déconcerter certains élèves. Mais bon, globalement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entraînement sur des bacs blancs, on essaye de faire varier les sujets. Et en général, c'est fait sérieusement et les élèves sont assez familiers du type d'exercice qu'on peut leur proposer, donc avec un travail régulier. Après, il y a toujours la question de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'élèves qui n'ont pas confiance en eux, en amont et en aval, et voilà, qui se sentent déconcertés et finalement qui n'ont pas forcément si mal réussi que ça, mais qui doivent aussi s'en convaincre pendant l'épreuve pour ne pas baisser les bras.
Et là, vous pouvez leur dire quelque chose, tous les 3, à ceux dont on suppose qu'il manque un peu de confiance en eux, pour les 3 semaines qui restent, qu'est-ce que vous leur conseillez?
Pour la composition, ce qui me semble évident, c'est de leur dire que les sujets qui tombent sont vraiment les intitulés des chapitres, c'est autour de la problématique générale, donc il n'y a aucune surprise. Ça, c'est très rassurant parce que le terme même de composition les effraie, alors qu'on sait que ça tombe vraiment dans l'intitulé du chapitre étudié. Voilà, déjà là, évacuer cette première peur.
Mais pour autant, c'est pas une récitation de cours par cœur.
Non, mais disons qu'on les a beaucoup aidés pendant l'année à construire le plan. Donc il n'y a pas de surprise.
Nélonésis Rigolet.
Oui, c'est pas du par cœur. De toute façon, mémoriser par cœur tous les chapitres qu'il y a, ça me paraît hautement improbable. Mais ceci dit, effectivement, il n'y a pas de piège. Hein. C'est la mobilisation des notions et concepts qui correspondent en fait aux différents chapitres étudiés tout au long de l'année, avec en particulier pour la géographie, de toute façon, des questions autour de la mondialisation du développement qui sont le fil conducteur, le fil rouge de cette année à différentes échelles. Donc les élèves ont a priori tous les éléments en leur possession pour réussir cette épreuve s'ils ont travaillé sérieusement.
Alors, on l'entendait tout à fait au début de l'émission, ce bref extrait du président de la République, François Hollande, au micro d'Emmanuel Laurentin, c'était hier matin, qui disait « La géographie est très précieuse ». Alors, si vous le voulez bien, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire, comme on en est convenu, on va faire un jeu d'échelle assez classique, je le rappelle, 3 sujets, un sujet pays, donc le Brésil, un sujet des régionales, l'Afrique, puis un sujet d'échelle planétaire, l'intégration régionale et territoire dans la mondialisation. Commençons donc, si vous voulez bien, par le sujet pays. Vous l'avez intitulé « Dynamique territoriale du Brésil ». Et c'est le titre donc du croquis, Véronique Ziegler, que vous proposez d'expliquer étape par étape, pas à pas, comment vous vous y prendriez et quels conseils donneriez-vous, je vais y arriver, aux élèves, donc pour faire ce croquis, je le répète, le titre hein, que vous m'avez proposé, « Dynamique territoriale du Brésil ».
Alors le premier conseil, bien entendu, quel que soit le croquis, c'est de réfléchir à sa légende. Donc on a un brouillon, on remet bien au clair ses idées, comme pour une composition. Donc là, on a le terme « dynamique territoriale ». Qui doit être explicite pour l'élève. On va s'intéresser au changement de l'organisation du territoire du Brésil et surtout aux forces qui les provoquent. Et du coup, essayer de les trier, ces dynamiques. Et puis, on va regarder quelles en sont les conséquences actuelles. Et donc, repérer qu'à l'intérieur de cet espace qu'est le Brésil, il y a plusieurs grands ensembles régionaux. Donc, après cette première réflexion, en se souvenant de ce que l'on a fait l'étude du Brésil, et du fil directeur que vient de rappeler ma collègue, c'est-à-dire la mondialisation, moi, je propose que l'on construise la légende à partir de trois parties. Une première partie qui va présenter les dynamiques liées à la mondialisation et à l'intégration régionale. C'est un sujet auquel on a réfléchi toute l'année. Une autre partie qui essaie de faire le point sur les dynamiques internes au territoire brésilien, puisque le Brésil, on l'a présenté en cours comme un pays émergent, un pays qui est en train de connaître une croissance, et il y a forcément un certain nombre de conséquences sur le territoire. Et puis une dernière partie donc, qui présente ce qu'on appelle en géographie une typologie, c'est-à-dire un classement des ensembles régionaux du Brésil à partir de plusieurs critères. Globalement, on aura le dynamisme économique qui sera le critère principal. Et puis ensuite, on va avoir des critères concernant, par exemple, les migrations, etc.
Ce qui veut dire que dans votre troisième partie typologique, oui. Vous avez combien de types ?
J'en ai 5.
Ah oui, quand même ?
Oui.
Donc, type correspondant donc à un sous-espace ou à un espace, une région, je ne sais pas comment vous dites, du territoire brésilien.
Exactement, exactement. Je pense que là, dans l'objectif de nos 5 croquis à connaître, on imagine que pour chaque grande partie, on a à peu près 4-5 items, 4-5 figurés, hein, pour que ça fasse une légende quand même qui corresponde aux objectifs du bac.
D'accord. Alors, déjà, avant qu'on rentre dans le détail maintenant de ces trois grandes parties, puis que vous nous expliquiez comment vous allez les représenter, hein, puisqu'on a tout le matériel hein, que vous nous avez conseillé d'avoir tout à l'heure. Est-ce que Jean-Benoît Bourron et Nolwenn Aziz Rigolet, vous voulez réagir ou ajouter quelque chose à ce qui vient d'être présenté par votre collègue Véronique Ziegler à ce stade ?
Peut-être sur le nombre de figurés, parce que c'est une question que se posent les élèves, jusqu'où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'on peut s'arrêter. Je trouve qu'en effet, entre 12 et 15, c'est une bonne fourchette du nombre de figurés à représenter, à la fois pour avoir assez d'informations intéressantes sur son croquis, et puis en même temps pour ne pas se perdre, ne serait-ce que parce que le temps de l'épreuve est bien sûr limité.
D'accord. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que au moment où les élèves commencent à réfléchir à ce qu'ils vont mettre sur la carte, donc à la légende, à son organisation, au-delà de 15 items, comme vous dites, donc de 15 figurés, ça va pas. Hein, c'est 15 maxi, quoi.
Non, c'est pas que ça va pas, mais faut peut-être. Enfin, ça devient difficile à mettre en œuvre après.
Bien sûr. Alors, Véronique Ziegler, donc vos trois grandes parties, comment vous allez les en faire une carte finalement ?
Donc après, l'élève sur son papier classe dans sa légende selon ce que je viens d'indiquer. Donc par exemple, pour le Brésil, on va repérer le fait qu'il existe des interfaces maritimes, comme on en a vu dans d'autres endroits, que c'est bien sûr lié à la mondialisation, que le Brésil possède désormais une grande agglomération, Sao Paulo, mais que l'on peut appeler ville mondiale émergente, donc il va falloir la mettre en valeur. des régions transfrontalières dynamiques et qu'il appartient au Mercosur. Donc, par exemple, pour la première partie...
Le Mercosur, parce qu'on n'a pas tous en tête, nous, ce que c'est que le Mercosur. Hein.
Donc, le Mercosur, c'est une organisation régionale qui, donc, en Amérique latine...
C'est le marché commun du cône sud, quoi.
Voilà, exactement, et qui permet du coup au Brésil, qui en est le pays vraiment leader, de commencer à construire un espace régional économiquement, le plus dynamique possible.
C'est un peu comme une union douanière, quoi.
Exactement.
Alors, les éléments que vous venez de nous indiquer, Véronique Ziegler, donc c'est ceux qui vont constituer votre première partie,
exactement.
N'est-ce pas ?
C'est ça. Et alors, ensuite, bien entendu, quand on va choisir pour ces éléments un certain nombre de figurés, on doit bien se poser la question de ce que l'on veut faire ressortir sur le croquis. Parce que ça, ce que je veux vraiment dire aux élèves, c'est que le croquis, c'est pas une carte d'atlas. C'est leur réponse à la question posée. Donc, par exemple, très simplement, là, quelles sont les dynamiques territoriales en œuvre, par exemple, au Brésil, quelles sont leurs conséquences ? Il va donc falloir que, quand moi je prends le croquis pour l'évaluer, m'apparaissent, me sautent aux yeux vraiment les éléments qu'ils veulent valoriser. Donc le choix des couleurs, le choix de la taille du figuré, ça va être important. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a une ville mondiale émergente. Là, je choisis de prendre un cercle rouge, un figuré qui va être vraiment gros, et d'écrire Sao Paulo en rouge en majuscule. Parce que c'est cet élément que je veux faire ressortir. Je vais pas du tout écrire de la même manière, par exemple, Porto Alegre, un cercle beaucoup plus petit, pas écrit de la même manière, pour faire vraiment cette différence.
Ni Rio de Janeiro en dépit des Jeux Olympiques.
Voilà, je l'écrirai, je le valoriserai, mais moins que Sao Paulo. Donc, évidemment, quand on voit le croquis, on doit comprendre ce que l'élève a voulu mettre en valeur. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, il ne faut pas hésiter, pour certains éléments de la carte, à les faire assez gros, des traits épais. Souvent, les élèves n'osent pas trop. Ils me font toujours des petites flèches de flux très fines, etc. Pour montrer vraiment la hiérarchie que l'on a choisie. Donc, ça, c'est pour la première partie.
Alors, les conseils. Avant qu'on passe à la deuxième partie, si vous voulez juste lister une deuxième fois, une dernière fois, donc vos cinq items qui sont dans cette première partie, donc San Paolo, on a bien compris.
D'accord, donc ensuite, effectivement, ce dont je n'ai pas parlé encore, ce que j'appelle le triangle métropolitain, où je vais trouver Sao Paulo en lien très fort avec Rio de Janeiro et Belo Horizonte, donc un triangle qui est au cœur vraiment de la région la plus dynamique. Donc ça, c'est le deuxième item. Et il sera vraiment représenté par un triangle rouge. Le troisième, les interfaces maritimes, en bleu, assez, avec une sorte de dentelé ou de crénelé bleu. Donc les pays membres du Mercosur, on écrit leur nom, on les entoure de la même couleur.
Et donc on les écrit, le long des
Brésil
frontières
sur
du Brésil.
Le Brésil, voilà, le Paraguay sur le Paraguay, etc. Et des régions transfrontalières dynamiques que l'on met à cheval sur les frontières que l'on a, puisque dans le front de carte, évidemment, on a les pays frontaliers du Brésil.
Voilà, ce qui veut dire que, sous-entendu, il y a des frontières non dynamiques. Il y a des espaces frontaliers qui ne sont pas des régions
transfrontalières. Voilà, il y a des espaces frontaliers, majoritairement tout autour de l'Amazonie, qui sont plutôt conflictuels ou fermés, donc qui ne sont pas là représentés comme espaces dynamiques.
D'accord, donc ça c'était pour la première partie. La deuxième partie.
La deuxième partie. Du croquis. Donc, on s'intéresse à des dynamiques qui sont plus spécifiques à l'intérieur du Brésil. Donc, les dynamiques internes. Donc là, on va représenter quelques axes de communication. Il n'est pas question de représenter tous les axes de communication, hein, plutôt pour mettre en valeur le fait qu'ils desservent certaines parties du territoire et pas d'autres. Ensuite, le front pionnier. Très important pour montrer l'avancée à la fois d'une certaine urbanisation, mais aussi de l'exploitation des ressources du sous-sol dans l'Amazonie.
Donc là, on est sur un phénomène de frontière un peu identique à celui qu'on a connu aux États-Unis
par
tout
exemple,
au long du 19e siècle.
En URSS, voilà. Donc là, une mise en valeur du territoire qui n'est pas achevée pour le Brésil. Donc ça, il faut le montrer. Et en lien avec ces deux premiers éléments, eh bien, des flux migratoires internes qui se dirige soit en direction de ce front pionnier, soit en direction de la zone très dynamique qu'on a présentée tout à l'heure autour du triangle métropolitain, Ou, dernière possibilité, une zone qu'on appelle le centre-ouest, qui est une zone surtout agricole et qui a aussi un certain dynamisme qui va attirer. Attirer qui ? Eh bien, attirer la plupart du temps des Brésiliens qui habitent au nord-est, qui est la région actuellement la moins dynamique économiquement. Ensuite, dernier point dans ce grand 2, enfin, on va s'intéresser aux autres villes que celles déjà mentionnées. La capitale, Brasilia, qui est une capitale créée, ex nihilo, qui est excentrée, c'est un choix politique. Donc il faut quand même la représenter sur la carte, avec d'une autre manière. Là, je propose un carré noir pour montrer que ce n'est pas du tout la même chose que les métropoles. Voilà. Et les autres villes, simplement mentionnées par un point rouge.
Leur localisation.
Quoi, exactement, leur D'accord. localisation.
Et alors enfin, donc, troisième partie, celle qui va donner, j'imagine, sa plus grande coloration à la carte.
Exactement.
Donc, la typologie spatiale.
Donc pour l'instant, dans les parties 1 et 2, on a choisi des figurés ponctuels. Mais ce qui va effectivement montrer la compréhension que l'on a des contrastes du Brésil, c'est les grands ensembles régionaux. Alors là, pour le Brésil, comme pour d'autres cartes, par exemple, je pense à la carte que les élèves, ou croquis, pardon, que les élèves ont aussi à réaliser les dynamiques territoriales des États-Unis, eh bien, on va garder les aplats de couleurs pour cette dernière partie des ensembles régionaux.
Et là, vous disiez tout à l'heure, 5 grands ensembles régionaux.
5. Alors, selon les propositions, les élèves ont trouvé 4 ou 5. Moi, je propose quand même 5. Toujours le même conseil, puisque c'est leur réponse au sujet, il va falloir que les ensembles qu'ils veulent montrer comme les plus dynamiques, eh bien, ils les mettent dans des couleurs chaudes et foncées, vraiment, qui ressortent. Et quand ils font leur légende, eh bien, on va du plus dynamique au moins dynamique dans la présentation.
Donc de la couleur la plus chaude à la couleur la plus froide.
Voilà, et selon un petit peu un modèle économique adopté en gros par les géographes pour les croquis, c'est-à-dire centre-périphérie.
Alors, donc, rapidement, si vous voulez bien, ces 5 régions, je dis rapidement parce qu'on a encore 2 autres croquis à voir.
Donc le sud et le sud-est, c'est le centre dominant du Brésil. Je propose qu'on le mette en orange et qu'à l'intérieur de cet ensemble-là, on valorise le cœur économique autour du fameux triangle dont j'ai parlé tout à l'heure et évidemment autour de Sao Paulo.
Donc ça, vous l'appelez tout simplement le centre.
Le centre dominant avec son cœur économique, exactement. Et puis ensuite, le centre-ouest, dont j'ai parlé tout à l'heure, dynamique parce qu'il y a des exportations agricoles. C'est un espace qui est intégré. Ensuite, le nord-est, un ancien centre désormais en crise. Et puis, en dernier, l'Amazonie, un espace en réserve, encore partiellement exploité. Donc voilà, là, ça constitue finalement la fin de la réponse de l'élève sur ce croquis.
Et alors, donc, vos couleurs. Donc, on imagine que du coup, votre centre dominant, qui, je le rappelle, est au sud,
oui.
C'est, vous allez mettre en rouge ou en orange?
Oui, alors j'ai mis en rose foncé parce que les villes sont en rouge. Donc voilà, il faut faire des essais. Les élèves, c'est bien qu'ils fassent des essais pour voir ce qui marche. En orange foncé, le centre dominant. En jaune, la périphérie intégrée. Et puis, une couleur vraiment très pâle. Voilà, une couleur vraiment très pâle. Là, j'ai proposé du gris, mais ça peut être autre chose pour l'ancien centre en crise. Et du vert pour l'Amazonie.
D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Benoît Bourron et Nolwenn Azilis-Rigolet, vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit par Véronique Ziegler ou est-ce qu'on passe directement...
Ça me paraît complet. Hein.
Jean-Benoît Bourron, vous aussi.
Rien à ajouter.
Rien vrai. À ajouter. Alors, je vous donne la parole puisque c'est vous qui avez bien voulu nous donner vos secrets pour le sujet d'air régional, l'Afrique contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation. Et je précise que, en même temps qu'ils vous écoutent, nos auditeurs peuvent aller soit directement sur votre blog Géothèque, puisque la carte, enfin le croquis, pardon, que vous allez nous raconter maintenant y figure, et ils peuvent également y accéder par la page de Planète Terre sur le site de franceculture.fr. Alors, Jean-Benoît Bourron, c'est à vous pour, encore une fois, l'Afrique, contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation.
Oui, alors ce sujet, dès le départ, pose une contradiction, une opposition entre le développement ou le mal-développement et l'intégration à la mondialisation. Toute la difficulté pour les élèves sur le continent africain est de ne pas tomber, d'une part, dans un excès d'afro-pessimisme à la René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Ni
ça,
dans un excès.
C'était les années 60,
Voilà, mais le discours reste très présent. Ni dans un excès d'afro micro-optimisme, type ce qu'on peut lire chez plusieurs auteurs comme Sylvie Brunel, le continent de demain, en quelque sorte, le continent des richesses du futur. C'est pourquoi je proposais de traiter ce croquis en trois parties sur un plan qu'on pourrait dire dialectique. Avec une première partie qui fait le constat des contrastes de développement, un continent inégalement développé, puis une deuxième partie pour expliquer que ce continent est cependant intégré à la mondialisation, et enfin une partie peut-être plus synthétique sur quelques défis à relever pour que l'Afrique devienne effectivement le continent de l'avenir.
Donc Jean-Benoît Bourron, si j'ai bien entendu, hein, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, dans votre croquis sur l'Afrique, pas de typologie spatiale.
Alors en fait, la première partie, un continent que je pourrais appeler un continent face au contraste de développement, peut s'apparenter à une typologie de manière un petit peu inhabituelle en première partie, mais ça permet de poser les différents espaces et leur degré de développement qui sont inégaux.
D'accord, donc ça veut dire que, est-ce que c'est quelque chose donc qu'on peut dire aux élèves, il est possible de différencier des espaces régionaux ou sub-régionaux dès la première partie. Ça ne sera pas sanctionné.
Oui, je pense pas qu'il y ait d'orthodoxie en la manière. Enfin, mes collègues vont peut-être me taper sur les doigts et dire que je suis iconoclaste, mais je ne crois pas qu'on puisse reprocher à un candidat de faire une typologie qui ne soit pas en troisième partie, ni d'ailleurs que cette typologie soit obligatoire.
D'accord. Alors, cette première partie, donc, si vous voulez bien nous l'indiquer. Puis, encore une fois, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention au temps, puisqu'il est 16h40 et qu'après votre croquis, il y en aura un troisième.
Je ferai vite.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, non, en deux mots, en réalité, on va très vite distinguer des régions qui sont plutôt développées, qui vont former l'extrême nord du continent avec les littoraux du Maghreb et du Mashrek, et puis l'extrême sud avec une partie de l'Afrique australe, et en particulier l'Afrique du Sud, qui a une place un petit peu particulière, puisqu'elle compte parmi les puissances émergentes. Et puis ensuite, on va distinguer des régions qui sont en croissance et en développement de régions qu'on peut considérer comme restant enclavées et largement à l'écart du développement. Celles qui correspondent à l'intérieur du continent et aux pays qui n'ont pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement que l'ONU avait fixé.
Donc ça fait combien de régions, du coup, en
tout ? Ce qui fait trois ensembles auxquels je proposais d'ajouter la limite où le paludisme sévit fortement et qui enserre en quelque sorte l'intérieur et le centre du continent pour rappeler que des problèmes de santé se posent encore dans ces régions.
Donc, si vous voulez bien, juste une dernière fois les lister. Donc, il y a d'une part l'Afrique du Nord, Maghreb, Mashrek. D'autre part,
associé à l'Afrique australe.
Ah oui, donc ça, c'est un même
dans les
ensemble.
Régions développées.
Donc, ça va être d'une même couleur sur votre
tout
sur,
à fait.
Sur
donc,
votre carte.
Okay. Comme le disait Véronique Ziegler, en des couleurs chaudes, des couleurs denses, plutôt foncées, hein, et puis après avec des couleurs qui seront plus froides et plus claires pour les autres régions. Donc région en développement en Afrique, dans les littoraux d'Afrique de l'Ouest et une écharpe d'Afrique orientale plus développée et puis des régions enclavées et à l'écart du développement à l'intérieur du continent.
D'accord, très bien. Alors, ensuite, votre seconde partie, Jean-Benoît Bourron.
Donc, après avoir présenté un continent qui affronte des contrastes de développement, on peut voir que néanmoins, il est intégré à la mondialisation. C'est le moment de localiser quelques ressources. Avec une difficulté, c'est qu'à l'échelle du continent, les candidats au baccalauréat ne vont pas retenir toutes les mines d'uranium, de fer, de zinc et tous les gisements africains ou de diamants. Mais peut-être qu'en localiser quelques-uns dans la région des Grands Lacs, en Afrique australe, et puis penser aux richesses du Sahara, par exemple en hydrocarbures, peut permettre de rappeler que l'Afrique reste un continent de ressources sur lesquelles on peut après s'interroger s'il s'agit d'un bienfait ou d'une malédiction pour l'Afrique, pour être un peu caricatural, mais en tout cas, qui l'intègre parfois malgré elle à la mondialisation.
Et là, puis vous utilisez quel type de figuré pour
Là, on sera dans des figurés ponctuels. peu visible parce qu'il ne s'agit pas de l'essentiel du sujet, mais plutôt des éléments qu'on doit localiser de manière ponctuelle, donc des figurés ponctuels, relativement discrets. On ne dessine pas un petit diamant pour représenter les mines de diamants, on se contente d'un triangle par exemple. Et pour les hydrocarbures, les gisements, on les localise avec des plages de couleurs, donc figurés surfaciques relativement discrets, gris, noir ou marron.
Bon, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses à mémoriser, hein ?
Oui, c'est la difficulté du croquis, c'est beaucoup de mémorisation, de localisation, et c'est pour ça qu'on doit être modeste et pas être exhaustif, on ne peut pas tout représenter. Les élèves choisiront quelques-uns quelques-unes des localisations qu'ils ont apprises en classe. Ils savent par exemple qu'il y a des gisements de ressources en Afrique australe, dans la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo, des gisements d'hydrocarbures au large du Nigeria et dans le Sahara. Et je pense que ça suffit pour les ressources.
Est-ce que sur les fonds de cartes sur lesquels pourraient être amenés à travailler les candidats le jour du baccalauréat, il y a les frontières des États ? Parce que c'est vrai que c'est très commode de se rappeler que tel type de ressources se trouve dans tel type d'État, même si on comprend bien que jusqu'à présent, les frontières politiques, finalement, sont assez peu explicatives. Donc oui,
elles y seront. Le défi reste pour les élèves de savoir localiser, alors évidemment pas les 52 ou 53 pays d'Afrique, mais d'avoir quelques localisations des principaux pays, je pense à l'Éthiopie, au Nigeria, ou l'Afrique du Sud, savoir où se trouvent ces pays, ou la République démocratique du Congo, savoir où se trouvent des pays. Ces pays va pouvoir leur servir, et peut-être aussi à localiser des toponymes.
Quelques pays qui feront un peu repères et jalons, quoi, finalement.
Tout à fait.
D'accord. Alors, votre troisième partie, enfin, si vous avez fini la seconde...
Dans la partie sur la mondialisation... Oui, non, on peut peut-être juste ajouter quelques métropoles. Je pense à Johannesburg ou au Caire ou Nairobi. Les liens
aussi
avec d'autres continents. Lagos, oui. Et puis quelques ports sur les côtes pour rappeler que l'intégration à la mondialisation de l'Afrique, elle passe par les littoraux, par les côtes et par ses ports. Abidjan et Lagos, le Cap et Durban, Djibouti, voilà, en faisant le tour du continent, hein, par le Cap de Bonne-Espérance.
Donc Côte d'Ivoire, Nigeria, voilà. Afrique du Sud.
Voilà, Djibouti. Puis l'Égypte, Port Saïd et Damiette, et puis les ports des pays du Maghreb que les élèves connaissent mieux parfois, Tunis, Alger, Tanger.
Ok.
Donc quelques ports, et puis on pourrait localiser aussi les façades littorales touristiques. Ensuite, pour une troisième partie sur les défis, c'est peut-être là qu'on peut synthétiser les grands enjeux qui associent à la fois intégration au développement et les différentes grilles de lecture que les élèves ont étudiées en début d'année, géoéconomique, géopolitique, géo-environnementale, etc.
Oui, ça c'est la toute première partie du cours de terminale en géographie, cinq grandes grilles de lecture.
Voilà, qu'on mobilise en fait dans tous les chapitres ensuite, les quatre grilles.
Quatre grilles,
donc j'ai oublié la grille géoculturelle aussi, et qu'on va essayer de mobiliser là encore. Alors là, il y a une question géopolitique majeure, c'est celle de la sécurité des Africains et du terrorisme, de la piraterie. Avec ces zones grises en Afrique orientale pour l'Éthiopie et au centre de l'Afrique dans une région saharo-sahélienne, qu'on peut entourer d'une ligne noire ou grise.
Un lasso, on peut dire comme ça ?
Un peu en quelque sorte, oui.
Un peu comme un lasso.
Un lasso de régions en crise géopolitique, géostratégique, avec un défi sécuritaire à relever. Deuxième défi, le défi sanitaire. On pourrait prendre l'exemple du sida et donc les États où le taux de prévalence du sida excède 10% des adultes. Ici, ce sont les régions d'Afrique australe et orientale, donc la partie sud-est du continent, sud et sud-est, jusqu'à la Tanzanie, en gros. Le défi urbain avec les mégapoles. Il n'y en a que trois en Afrique, des mégapoles, hein, Lagos, Kinshasa et le Caire. Et puis, peut-être, les grandes régions naturelles, ce qui permet de localiser quelques toponymes de régions naturelles face au changement global, Sahara, Sahel, Grand Lac, etc.
D'accord. Merci beaucoup. Véronique Ziegler et Nolwenn Azilis-Rigolet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient de dire par Jean-Benoît Bourron ?
Non, sur le croquis, rien à ajouter. Juste pour ne pas oublier, un conseil aux élèves, bien entendu, le croquis, il faut le faire plusieurs fois. Sur des fonds de cartes qu'on aura au préalable tiré pour s'entraîner. Regarder le croquis et penser qu'on le connaît juste en le regardant est une erreur.
C'est une erreur, oui, tout à fait.
Oui, il faut de la pratique, quoi. Hein.
Oui. Exactement.
C'est comme le vélo, quand on en fait, ça marche très bien, et quand on s'arrête, on tombe.
D'ailleurs, les fonds de cartes sont disponibles sur Eduscol, On peut donner les liens à nos élèves, mais sur EduSchool, vous tapez, vous allez sur Google, fond de carte, EduSchool, bac, et vous pouvez les télécharger pour vous entraîner. Donc ça, on conseille aux élèves de le faire. Et puisqu'on est sur des petits rappels méthodologiques... Oui, je vais vous présenter ensuite des territoires inégalement intégrés à la mondialisation, donc croquis à l'échelle mondiale. J'en profite pour donner un petit truc méthodo-mnémotechnique qu'on avait mis en place avec des élèves de terminale il y a 3 ans, qu'on a appelé le TOLENPAF. En fait, c'est un acronyme donc pour désigner les éléments incontournables sur tout croquis. Alors évidemment, je vais définir ces termes. L'idée, c'est de mettre donc l'acronyme sur sa feuille de brouillon dès lors qu'on voit qu'on a affaire à un croquis comme épreuve. TOLENPAF, T pour le titre, à placer et sur la carte et sur la légende, O pour l'orientation, qui est parfois déjà présente sur le fond de carte, L pour légende, structurée et organisée, E pour... l'échelle qui peut être indiquée sur la carte mais qui n'est pas systématiquement, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur. N pour la nomenclature, donc les mers, les océans, toutes les localisations, les pays limitrophes. Je conseille aux élèves d'ailleurs de commencer par la nomenclature car souvent ils ont tendance à l'oublier une fois qu'ils sont emportés par leur coloriage et leur constitution de légende. Or une carte muette pour le coup est lourdement sanctionnée. Et ensuite le PAF du TOLENPAF, c'est pôle, air, flux. Pôle, c'est donc représenté par les figurées ponctuelles, les triangles, les ronds, les carrés pour les métropoles, les ports, les aéroports, etc. A pour R, donc les figurées surfaciques, les aplats de couleurs, etc. F pour les flux, donc tout ce qui va être figuré linéaire, donc les flèches, les figurées d'interface, etc. Et donc le fait de vérifier TOLENPAF, qu'on a toutes ces catégories, peut déjà être une façon de se raccrocher aux branches et de savoir qu'on a au moins, voilà, d'un point de vue méthodologique, respecté ce que le prof et le correcteur attendent. Voilà.
Vous nous répétez une dernière fois juste... chacun des mots qui correspond à votre acronyme.
Alors, TOLENPAF, titre, orientation, légende, échelle, nomenclature, pôle, air, flux.
Merci beaucoup.
Voilà. Alors, juste alors rapidement pour le dernier croquis des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. Là, ici, on a finalement quelque chose d'assez global sur l'année, avec justement en soi, la légende peut être une forme de typologie des territoires, puisque l'intérêt de cette année de terminale, c'est de voir comment la mondialisation hiérarchise les lieux à toutes les échelles et comment, en fait, elle induit une recomposition territoriale à l'échelle mondiale. Et là, la légende proposée, ça peut être en soi une typologie, avec des territoires qui dominent l'économie mondialisée dans un premier temps. Dans un second temps, des territoires qui sont intégrés à la mondialisation, les pays émergents, etc. Et dans un dernier temps, des territoires qui seraient marginalisés dans la mondialisation. Alors pour les territoires dominant l'économie mondialisée, ce qui pourrait être donc la première catégorie...
Donc ça veut dire, excusez-moi, Nolwenn Nazis-Rigolet, ça veut dire que chacune de vos trois parties, c'est en fait un grand type d'espace.
Finalement, oui. Pour
d'accord,
ce croquis, hein, ça
pour
paraît
l'inégale intégration des territoires
et
dans
ça
la
peut d'ailleurs servir finalement de rappel pour un plan sur une composition sur le même terme.
Bien sûr.
Sur le même thème. Hein. Et donc à l'intérieur, là, on va faire figurer des pôles, des aires et des flux. Avec, pour les territoires dominant l'économie mondialisée, on va par exemple mettre les métropoles mondiales, qui sont donc les hypercentres de la mondialisation. On a beaucoup travaillé sur les interfaces maritimes, ce qu'on rappelait également Véronique Ziegler et Jean-Benoît Bourron. Donc là, on va pouvoir faire figurer les grandes interfaces. Ensuite, on va présenter donc les pays riches, les grandes aires de puissance, Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est, en incluant évidemment aujourd'hui le littoral chinois. Et puis ces trois aires, elles sont reliées par les flux majeurs de la mondialisation. Donc là, on a dans cette première partie typologie à la fois des pôles, des aires et des flux. Donc voilà. Dans une seconde partie, on pourrait mettre les territoires donc intégrés à la mondialisation comme les BRICS.
Alors, donc intégrés mais pas dominants, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
C'est
voilà.
Ça la subtilité.
Alors, les BRICS, un terme économique qui nous vient de Goldman Sachs. Donc on peut être un peu réticent. C'est vrai que c'est pratique pour les élèves parce que là, pour le coup, l'acronyme est très mémotechnique.
Il veut dire
Brésil, Russie, Inde, Chine et puis South Africa puisque ça nous vient donc de l'anglo-saxon. Donc c'est très pratique hein, quand même comme petit outil. Bon, on peut mettre les civettes, donc avec le Vietnam.
Donc dans votre deuxième partie, c'est...
Deuxième partie, c'est ceux qui sont intégrés mais qui ne dominent pas encore.
D'accord. Et, voilà. Et ce ne sont que les BRICS ou c'est les BRICS et d'autres?
Alors on peut rajouter ce qu'on appelle par exemple les civettes, donc Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, ou ce qu'on peut appeler les Next 11 avec une grosse partie asiatique. Après, avoir en fonction des compétences des élèves, de comment ils se sentent. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de structuré. Voilà, il faut jouer le jeu. Après, le degré de précision dépendra des affinités qu'on a avec ce thème. Voilà. En tout cas, les briques sont incontournables. Les émergents classiques, en tout cas, émergents émergés, sont en tout cas aujourd'hui incontournables dans ce que va attendre le correcteur.
Ah, c'est la deuxième partie, oui.
Voilà. On va pouvoir mettre des types d'échanges, des mobilités comme le tourisme, etc. La carte qui va être mise en ligne sur le site de l'émission vient de la géothèque. Moi, ça correspond à peu près à la légende que j'ai donnée à mes élèves. Donc voilà, je valorise aussi le travail de mon collègue Jean-Benoît Bouron qui a fait une très bonne carte sur le thème. Il met par exemple pour cette seconde partie les états avec les réserves de pétrole prouvées en milliards de barils, ce qui permet du coup d'insérer par exemple les états du Moyen-Orient, mais également le Venezuela en fait. Hein. Donc ça, pour cette deuxième partie, ça nous permet de voir les mécanismes d'intégration de ces états.
Et... Est-ce que ça veut donc dire, Nolwenn Azilis Rigolet, que les BRICS et les états associés sont tous de la même couleur sur la carte?
On peut les mettre de la même couleur, en tout cas pour les BRICS, puisqu'on les a mis dans une catégorie commune. Si on décide de pousser un petit peu plus loin la typologie affinée, on peut mettre une autre couleur.
Mais ah oui, carrément une autre couleur. Ça ne serait pas, par exemple, je ne sais pas moi, du violet et du bleu. Enfin, vous allez
oui,
me dire
enfin si, on est dans la même gamme. On va rester d'accord. Dans la même gamme, mais par contre, effectivement, on va les pays riches, souvent, traditionnellement, on va les mettre en rouge, par exemple, oui. Pour faire ressortir justement les contrastes qu'évoquait à juste titre Véronique Ziegler. Là, effectivement, l'idée, c'est qu'en voyant la carte, tout de suite, on voit si l'élève a compris et s'il a bien compris justement cette hiérarchisation des territoires induite par la mondialisation. Cette hiérarchisation, elle saute aux yeux effectivement quand on voit la copie de toute façon.
Et alors, quels sont les éléments que vous rajoutez, si j'ose dire, sur cet aplat de couleurs?
Sur cet aplat de couleurs, les éléments que je rajoute, pardon?
Oui, en termes de figurés, quels sont les...
Eh ben, les métropoles, hein, par exemple, je l'avais évoqué, le nom des États quand même concernés. Ça va être, quand je disais dans la nomenclature, le nom des États est fondamental. Si on les colore d'une certaine couleur, il faut quand même les faire figurer comme tels, montrer quand même qu'on a un degré de précision dans les localisations.
Alors, votre troisième grande partie.
Ce seraient les territoires en marge, les territoires marginalisés. Donc,
on peut les appeler périphérie ou oui, en marge
aussi.
Et périphérie, c'est
oui,
différent.
Alors, ce n'est pas exactement la même chose. On est à un niveau terminal. La notion de marge, ça peut être un petit peu complexe. L'idée, c'est de voir que c'est à l'écart, en dehors des flux, en tout cas, moins concerné par les flux. Que ces États le veuillent ou non d'ailleurs. Donc là, on va mettre par exemple les pays dits en développement. À partir des sources diverses. Donc les pays qui ne sont ni gros exportateurs, mais qui ne sont pas non plus dans la catégorie des pays les moins avancés. Donc les PMA peuvent en soi être une catégorie. On peut éventuellement penser aussi aux États enclavés. Les élèves qui vont avoir travaillé par exemple sur le croquis de l'Afrique sont tout à fait à même de mettre les États enclavés dont parlait tout à l'heure Jean-Benoît Bouron. En fait, on réexploite d'un croquis à l'autre. Même chose pour les interfaces maritimes. On a travaillé sur différents États concernés par ces interfaces maritimes. On va les réexploiter. On peut rajouter également, pourquoi pas, un figuré ponctuel comme les conflits en cours. Donc, on peut mettre les conflits au Mali, on peut mettre des conflits en Colombie, etc. Ça nous fait un figuré ponctuel qui montre ici, effectivement, qu'il y a un problème de contrôle des territoires. Et puis, on peut éventuellement ajouter la catégorie des zones grises de la mondialisation. Ça, on a travaillé aussi là-dessus. Ça, c'est des choses que les élèves connaissent. Donc, voilà, l'idée, c'est de vraiment de réexploiter toutes les données qu'on a intégrées cette année en le traduisant par des figurés. Et ça permet d'ailleurs à des élèves qui sont parfois au niveau de l'expression, c'est un petit peu compliqué l'expression écrite, de pouvoir traduire ici par des figurés en fait une réalité géographique d'une autre manière. Voilà.
Eh ben, on en restera donc sur cette évocation très optimiste, hein, un appel à utiliser les figurés et le graphisme quand on a du mal à s'exprimer à l'écrit ou qu'on pense qu'on a du mal. Voilà, Planétaire, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc le jour du bac, réussir son croquis géographique. Nolwenn Azilis Rigolet, Véronique Ziegler, Jean-Benoît Bouron, merci beaucoup à tous trois pour vos précieux éclairages.
Merci.
Mais merci à vous. Merci à vous. Les liens vers vos publications, vers vos blogs sont sur le site web franceculture.fr à la page de Planète Terre. Et puis la préparation du bac, quant à elle, se prolonge dans toutes les disciplines. Sur lemondecampus.fr, notre partenaire, et également toute cette semaine sur l'antenne de France Culture et sur franceculture.fr, puisque l'équipe web de France Culture a mis à la disposition de tous l'ensemble des émissions Réviser le bac que nous avons tous ensemble réalisées depuis 3 ans. Luc-Jean Reynaud, Jean-Guilain Meige, Et l'ensemble des équipes de Radio France à Lyon, ainsi que Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France, nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission qui s'écoute en ligne sans limite de temps et que vous pouvez podcaster durant un an. Et puis bien sûr, vous pouvez la partager sur mes comptes Facebook et Twitter, ainsi que avec les pages Facebook de mes trois invités. Merci beaucoup de votre attention. Et demain, dans la Marche des Sciences, à 16h, Aurélie Luneau évoquera pour sa part l'épreuve de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, et plus particulièrement la géothermie.